vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 20h, Radio Ici l'Ombre, la radio passagère de Concertina autour des enfermements, s'écoute sur l'antenne de Radiola, sur le 106.6 FM à Dulphy et sur l'appli Radiola partout ailleurs.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs. Vous êtes à l'écoute de la toute dernière émission en direct d'Ici l'Ombre, une radio éphémère installée le temps d'un week-end à Dulphy à l'occasion de la troisième édition de Concertina, des rencontres autour des enfermements, cette année placée sous le thème du silence. Silence qui nous parle à nous aussi en radio, silence qu'on recherche lors de nos prises de son, silence radio, silence que l'on prend le temps d'écouter, qu'on enregistre sur nos lieux de reportage et qui nous sert bien souvent au montage. Les silences que l'on aime, ceux qui ponctuent un récit, qu'aucun mot ne remplace et qui témoignent de nos émotions. Le silence du temps de la réflexion. Et puis il y a aussi les silences qui enferment, ceux que nous cherchons à briser en tendant les micros, rendre la parole à ceux qui ne l'ont pas, sortir du silence. C'est ce qu'on a cherché à faire lors d'ateliers radio menés à Val-Accueil, un accueil de jour à Cré, avec ma collègue Héloïse Plantroux pour Radio Saint-Ferréol. Un travail collectif qui a donné lieu à 8 podcasts illustrés et animés par Yann Desgruel. Des récits poignants, loin des conventions, profondément humains, qui nous ont été partagés par 7 accueillis et une accueillante de Val-Accueil, dont Lynn, Geller et Julie, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Salut à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci aussi à Antonin, à la technique de cette émission. Donc, je le disais, des ateliers radio qui ont donné lieu à cette série qu'on a appelée Les Oiseaux de Passage. Les Oiseaux de Passage, c'est le titre qui a été choisi par le groupe, et notamment par Berama Ibrahim, qui devait être là, mais qui n'ont malheureusement pas pu venir. Des ateliers, il y en a eu 8 en tout depuis le mois de février. Et donc cette série de podcasts animés, on va la découvrir un petit peu dans cette émission. Alors vous qui l'écoutez, vous allez entendre les podcasts et puis il y a quelques personnes présentes pour voir en même temps les dessins qui ont été faits par Yann Desgruel et qui accompagnent ces podcasts illustrés, cette radio dessinée, on ne sait pas trop comment l'appeler, on y a réfléchi longtemps mais on ne sait toujours pas. En tout cas c'est des dessins et de la radio. Dans cette série on entend des récits intimes que vous n'aviez pas l'habitude de partager. Alors qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Qu'est-ce que ça fait de sortir ces récits du silence? Et puis pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire, vous, Geller et Lynn, d'abord?
J'y vais. Bon, alors déjà, à la base, on n'était pas obligé de faire un récit personnel. On voulait juste faire un récit. Moi, j'étais pas parti pour me livrer à ce point, mais on va dire que l'effet de groupe y était pour beaucoup. Quand on entend les histoires des autres, du coup, ça te donne envie de raconter la tienne. Qu'est-ce que ça a fait on a l'impression de se mettre à nu quand même, hein. Vraiment, se mettre à nu, quand il y a du monde en direct, c'est peut-être encore pire. Mais ça fait du bien, il y a un côté exutoire aussi. Et puis, moi, je vois ça comme un partager pour éviter à certains peut-être de refaire les mêmes erreurs. Je le vois comme ça, comme quelque chose de... Pardon, faut pas taper sur la table.
Ton récit, alors on va pas trop en dire parce qu'on va le découvrir tout à l'heure. Voilà. Du coup, ton récit, c'est vrai que tu étais parti sur complètement autre chose au début. Tu avais imaginé une fiction radio.
Ah, j'étais parti,
radio.
Voilà. Ouais, pour faire rêver. Mais en fait, le rêve, il a rattrapé la réalité. Enfin, vous verrez bien pendant le podcast.
Ouais. Finalement, c'est une histoire de vie que tu partages.
Tout à fait.
Et souvent, la réalité, elle est encore plus riche que les fictions. Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que dans nos vies, il s'est passé parfois tellement de choses que on a l'impression que c'est pas vrai. On a l'impression que si on disait tout, on serait des mythos, quoi. Je sais pas.
Et puis c'est courageux du coup de livrer aussi des... Enfin, on va l'entendre, mais c'est comme des messages assez...
Oui,
c'est courageux de se mettre à nu comme ça.
C'est pas facile, c'est sûr. Hein, c'est sûr, souvent des histoires qui ne sont pas forcément toujours drôles. Avec le recul, ça passe mieux, mais... Ouais, c'est quand même se mettre à nu. Et puis ben, c'est aussi apprendre à connaître des gens qu'on voit tous les jours et de les connaître autrement, en fait.
Je pense aussi, enfin, Personnellement, je m'en suis rendu compte lors de la première projection. Avant ça, on était dans notre bulle créative de tout ça. Il y avait certains avaient besoin d'apprendre un peu la technique, comment tenir un micro, comment machin. Donc on est occupé à autre chose. On pense pas aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Et à la première projection, là,
première projection qui a eu lieu à La Bonne Palette il y a une petite semaine.
Ouais, et là, avec plein de gens qu'on connaît pas. Et là, on prend tout le poids de ce qu'on est en train de dire.
Ouais. Ouais, parce que ces ateliers du coup se sont faits du coup sur plusieurs étapes. On a fait du coup il y a des ateliers de prise de son. Tout a été écrit par vous aussi. Tout a été imaginé par vous. Les ambiances, les dessins, les bruitages. Tout ça, vous avez réalisé vos propres.
Ah oui, il y avait beaucoup d'allers-retours.
Beaucoup d'allers-retours. Pour un bon résultat. Ouais. Un petit clin d'œil de Lynn, surtout pour toi.
Voilà, avec des pages. Exigeante. Des pages de commentaires par mail sur les résultats. Ouais. Préalable.
Et toi, Julie, en tant que toi, tu es éducatrice à l'accueil, c'est quoi les bénéfices pour toi d'un atelier de ce type, de la radio ?
Déjà, moi, je suis arrivée sur le projet un petit peu en cours. Donc, j'ai vécu l'expérience sans trop théoriser le projet. J'ai juste été là avec tout le monde et voilà, j'ai participé avec plaisir aux ateliers. C'est après que mon micro est. Je sais pas si. Ouais, c'est bon. Et du coup, donc c'est qu'après que j'ai eu le buzz, enfin j'ai eu l'envie et ça m'est venu en fait le qu'est-ce que ça m'a apporté. Et Julie, toi, qu'est-ce qu'en fait finalement, qu'est-ce que t'en penses du projet, quoi? Parce que je m'étais pas trop exprimée jusqu'à présent sur ce que ça m'avait apporté, quoi. Et du coup, ben moi, j'ai ce qui m'a un peu frappé, ce que j'aime beaucoup, qui se retrouve dans mon travail, c'est qu'on est parti de quelque chose d'intime finalement, de tout petit, sur l'individu. Et qu'on est venu petit à petit l'apporter et porter ce vécu et ces récits du réel, finalement, sur la sphère publique. Et du coup, c'est venu élargir et libérer quelque part une parole, parce que c'est des vécus que les personnes ne racontent pas forcément à leur entourage, aux proches qu'on croise tous les jours, dans le cadre du travail ou dans la rue. Et là, du coup, c'est venu vraiment... libérer une parole finalement et comme si c'était la société qui venait un peu soutenir ses vécus et voilà, donc moi c'est
et vous, alors, des vécus et puis des poèmes aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai dit des poèmes, que ça fait longtemps que j'écris de la poésie et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup la dire. Ça fait 23 ans maintenant que j'écris de la poésie et je l'ai souvent gardé caché et du coup j'ai pu l'exposer. Ça m'a permis.
On l'écoutera aussi du coup dans ta capsule qui va suivre. En attendant, je vous propose, il y avait Ibrahim qui devait être là, qui n'est pas là, mais je propose qu'on écoute quand même son récit. Je parlais des silences dans l'introduction, il y a aussi des silences qui marquent, les silences de l'absence, l'absence des parents dans l'enfance par exemple. Ibrahim, c'est un enfant de la DAS, comme il le dit, et c'est cette expérience dont il a voulu nous parler dans son récit, qu'on écoute tout de suite et qu'on regarde pour les quelques personnes présentes ici.
Les seuls souvenirs qui me restent, c'est d'une tata qui était agréée de l'ADAS, de Marcia, et que mes futurs parents sont venus me chercher. Je ne sais pas combien de temps avant qu'on vienne me chercher, je suis resté à l'ADAS.
Qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais des pis pense qu'en guise d'amis, son ombre suffit.
Mes parents d'adoption, quand j'étais petit, je leur ai pas parlé pendant un bon moment parce que j'attendais mes parents encore. J'ai tout gardé, c'est comme ça que j'ai tordu ma langue. J'ai bégayé un peu, enfin, cherché beaucoup mes mots, et ça m'a suivi. Qui je suis, quelle est ma maman, comment je m'appelle, j'ai des frères ou pas. L'histoire des racines te suit presque jusqu'à ta vie.
Comment tu t'appelles?
D'où tu viens? T'es né où? Donc je vais dire, je suis né en France. Mais t'es quoi en fait? J'ai un tampon noir. Donc je conclue que j'ai un tampon africain.
D'où tu viens?
Ma tata, elle m'avait dit, ton père était un homme bleu. Du désert, peut-être Maroc. je vois Maroc, Mauritanie, ouais, ça peut... Pourquoi pas ? Alors du coup, des fois, on me posait des questions, j'ai sorti plein de réponses. Parce que ça convenait jamais, hein. C'est incroyable. Et puis un jour, j'ai dit, bah, je suis marocain. La personne en face, bah, ça n'a pas l'air.
C'est pas possible. C'est pas possible.
J'ai eu des petites réponses quand j'ai reçu la lettre. C'est l'ADAS qui détenait les choses. Et du coup, il y avait deux, trois informations comportant ma mère. Mais j'avais pas son nom pendant longtemps. Pas son nom, pas son âge, quand elle m'a mis au monde. Et quand ils ont réuni tout ça, j'ai eu cette autorisation qu'on m'a envoyé cette lettre à Valence, mais je ne pouvais pas la réceptionner. C'était un courriel pour dire « Allez chercher cette lettre ». Je suis arrivé, ça faisait une grande maison de ville. On rentre, il y a plusieurs étages. Et là, on me dit « C'est au troisième, à droite, un grand couloir et c'est au bout à gauche ». Et je vois sur les côtés psychiatrie, je vois sur l'autre côté orthophonie, je vois sur l'autre côté plein de choses. Et puis là, il y a une dame qui sort qui dit « C'est là ».
Monsieur, c'est là.
Et une fois que j'étais dans les bureaux, je ne pouvais pas lire ma lettre. Ils avaient un protocole, ils me la lisaient et après, je pouvais la récupérer. Quelque chose que t'attends depuis que t'es petit. On te lit ton histoire. Ce jour-là, j'avais l'impression qu'on lisait un fait divers. Les journaux télévisés. Cette sensation d'une partie de son enfant intérieur qu'on a mis sur la place publique. Ça fait un peu cette sensation-là. Et j'ai compris, quand je suis sorti, pourquoi il y avait psychiatrie... Et pourquoi ils lisaient la lettre ? Parce qu'ils avaient peur que des réactions que ça peut procurer. J'ai appris les noms de ma mère, que j'ai une grande sœur, une demi-grande sœur, et un demi-frère. Ils disent pas le prénom, ils disent pas tout ça, mais ils disent la nationalité. Quand je dis moi, on me dit néant direct. Et du coup, là, tombé un petit peu. Je dis, comment on pouvait dire ça? C'est pas possible. Inconnu, mais néant quand même. Alors pour rigoler, j'ai dit que j'ai une cicatrice là, que j'ai depuis tout petit. Donc je lui ai dit, bon, bah, je m'appelle Harry Potter. Et puis ma mère, j'ai appris qu'elle s'appelait René-Marie. Et je suis Jésus, du coup. Je viens de... Et là, on me dit un peu de sérieux. Ça, c'est violent aussi, quand on te dit un peu de sérieux. Tu voudrais savoir qui tu es. Difficile d'avoir une image. Tu voudrais savoir qui t'a donné la vie. Difficile d'apercevoir un visage. Où sont donc passées ces pages? En âge de savoir connaître les tournants de ton histoire. Enfant de l'oubli, donner un sens à sa vie. L'enfant de l'oubli reconstitue le puzzle de sa vie. Enfant de l'oubli, veut donner un sens à sa vie. L'enfant de l'oubli reconstitue le puzzle de sa vie.
Voilà, merci à Ibrahim pour son récit qu'on vient d'entendre. Un récit, alors il n'est pas là aujourd'hui, Ibrahim, mais je profite pour le citer. Il voulait le dédier à, je cite, tous les enfants de la DAS. Donc c'est de cette expérience dont il a voulu nous parler pendant ses ateliers radio, je le rappelle, les oiseaux de passage qui ont lieu à Val-Accueil avec Radio Saint-Ferréol. Un récit sur lequel il voulait beaucoup insister aussi sur l'enfermement par le regard des autres dans une identité qu'il recherche lui-même. Cette recherche et cet enfermement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans ton récit, Lynn. Et il y a quelque chose qui revient autour de l'errance, notamment. Et puis il y a ces lieux comme Val-Accueil, donc là où se sont passés ces ateliers, qui sont un peu des lieux de répit, des lieux de ressources, en tout cas certains accueils de jour. Oui. Je ne dis pas qu'ils le sont tous.
Oui, c'est exactement. Ils ne sont pas tous égaux. Ouais.
Et c'est à Val-Accueil que toi, tu as choisi de rendre hommage dans ton récit qu'on va entendre.
C'est ça, j'ai choisi de faire un poème sur Val-Accueil qui en entend tout au long de mon podcast animé, quoi.
Qu'on écoute ? Je propose qu'on enchaîne tout de suite, du coup. le récit de Lynn sur Valakali.
Bonjour, moi c'est Lynn, alors je vis dans mon camion et puis ça fait bientôt 5 ans que je vis dans mon camion. Avant j'ai vécu dans une Clio, mais dans un camion c'est vachement cool. Je viens à Valakali assez souvent, mais je suis pas du matin, donc c'est pour ça que je suis arrivée qu'à la fin. Malgré mes espérances, j'oublie toute tempérance, déchéance à outrance, perdue dans mes errances. Partout sur mon passage, les yeux du paysage sans cesse me dévisagent. Ne serait-ce qu'un mirage ? Quand soudain une bourrasque fait s'envoler les masques. Plus d'armure ni de casque pour dissimuler mes frasques. Si parfois trébucher, se relever, continuer, sans jamais se retourner, ni jamais oublier. Ici, c'est un très bel accueil de jour. J'ai pu en voir d'autres qui étaient vachement moins bien. Ici, c'est vraiment cool, Valakali. Surtout pour une ville comme Cré, qui n'est quand même pas une grande ville. Alors, je suis très contente d'avoir découvert ce lieu. Invisible moins que rien, à Valakali, on redevient enfin un être humain. Avec ses coups de gueule, ses bonheurs et ses chagrins. Les beaux jours du matin précèdent le nom de chacun. On y reçoit notre courrier, on nous offre du café, mais surtout des sourires, de la convivialité. Je peux y prendre une douche sans garder mes souliers, car cet accueil de jour est d'une grande propreté. Ici, on ne nous voit pas juste comme de sales pauvres, mais comme des gens normaux qui, malgré tous leurs maux, savent jouer avec les mots, se montrer rigolos, car dans nos sacs à dos, il y a des talents, du beau.
Oh, tiens, ça, c'est bon, on est de la merde. Hein ? Je fais que de la merde.
Quand on a fait le repas de Noël à Valakali, là, ils étaient géniaux. On avait cuisiné pendant 2 jours et tout. On avait fait des gratins de patates, tout le monde l'a mangé comme lui voulait. Il y a même le docteur qui vient bénévolement, qui avait apporté des bûches de Noël. C'était trop bien, on avait des papillotes à gogo, des clémentines, bûches glacées, bûches à la crème. Enfin, c'était une tuerie, il y en avait pour tout le monde. On ne se retrouve pas réduit à de simples junkies qui ne maîtrisent pas leur vie. Au contraire, on survit. Bien souvent, nos riches vies comptent tant de péripéties, 10 encyclopédies pourraient en être remplies. Et tu tasses, tasses, tasses l'herbe devant les caissons. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit coule au fond de tes veines et fait cette rêve une folie.
Salut les gens, ça va et toi, ça va.
Quand on est une femme à la rue, ben, c'est toujours plus compliqué parce que ben, une fois que tout le monde est alcoolisé ou sous-produit, tout ça, on a vite tendance à devenir une proie. Et
quand tu me fais ça à moi,
moi je ne serai plus jamais une victime. Je vais essayer toujours de me débrouiller comme ça. Et voilà, parce qu'il faut savoir se défendre. On ne nous prend pas pour des cassos désespérés, des numéros de dossiers d'administration grippés, des gens dégénérés, incapables de se gérer, allergiques au papier, croulant sous les PV. L'équipe qui t'officie, totalement investie, bienveillante à l'écoute de nos vies, nos soucis, fait sortir le meilleur de tous les accueillis, rend possible nos envies, cuisine, de poésie. Je m'y sens libre de suivre ma route, ma destinée. On respecte mes choix de vie, ma temporalité. Sans me mettre dans une case, dire mes priorités. En mettre dans mes projets, en marche de cette société. Dreaming. Dans l'avenir, je vais voyager. Dans l'avenir, je voudrais aller jusque l'extrême nord, jusque la Norvège, voir les fjords, les aurores boréales, voir le premier lever de soleil. Mais je voudrais aussi passer par la Bretagne, faire des chantiers participatifs pour construire des carters. Dans un avenir lointain, j'aurai un terrain, je construirai des carters et j'accueillerai des gens de passage. On fera un jardin on sera autosuffisants, on cuisinera ensemble. S'il y a des gens qui sont des migrants, qui parlent pas bien français, ils apprendront sur le tas en construisant des carteres avec nous, en faisant le jardin, en cuisinant ensemble. On fera une communauté pour tous les gens qui sont de passage.
Là,
comment je fais pour...
Eh bien,
t'appuies dessus à nouveau.
Voilà, on vient d'écouter le récit de Lynn. Merci, Lynn, pour ce beau récit. Une belle capsule. J'entends des guélors souffler juste à côté, soupirer. Ça fait plusieurs fois que tu l'entends et t'as toujours les poils qui se dressent.
Ouais, ça fait toujours mais tous, en plus. Hein. Vous verrez bien les autres. Mais tous, ça fait un petit truc à chaque fois. Parce que c'est des trucs qui viennent du cœur, de toute façon. Donc, si on écoute avec le cœur, bah, forcément, ça touche.
C'est flatteur pour l'accueil, lui, quand même.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Ça remet, là.
Il y a quelque chose qui ressort, on en parlait juste avant, on le retrouve aussi dans Ibrahim, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans la plupart de vos récits, c'est cette stigmatisation, on en parlait juste avant. Parce que t'es stigmate, tu dis, on ne voit pas comme de pauvres, les junkies.
Ouais.
Et justement, je crois que Gaylor t'a écrit quelque chose sur le stigmate. Peut-être que toi aussi, Lynn, t'as envie d'en dire quelque chose, de cette stigmatisation.
Oui, parce que c'est vrai que quand j'avais repris des études, du coup, j'ai étudié un peu la sociologie de la déviance. Et du coup, les stigmates, il y a deux personnes qui en parlent très bien, deux sociologues qui en parlent très bien. C'est Howard Becker qui a écrit Outsiders et Irving Goffman qui a écrit Stigmates et Asile. Pour ça, il s'est même fait enfermer dans un hôpital psychiatrique lui-même pour pouvoir vivre du coup cette vie de reclus et du coup comprendre les stigmates qui soient à la fois physiques et à la fois les stigmates invisibles par la maladie mentale. Et du coup, en fait, ce qui parle, c'est que surtout il y a toute cette théorie en fait de l'étiquetage. Donc en fait, un stigmate, c'est qu'il y a un entrepreneur de morale qui a la légitimité de pouvoir imposer une norme et il va te dire qui est dans la norme et qui est hors norme. Et du coup, à partir du moment où tu vas être étiqueté hors norme, du coup, tu es porteur d'un stigmate. Et du coup, se libérer d'un stigmate, c'est essayer de vivre avec pour garder la face. Parce que dans l'échange social, eh ben, chacun essaye de garder la face et du coup, de se présenter sous son jour le plus favorable. Et du coup, d'essayer de laisser le stigmate derrière, d'essayer de le rendre invisible. Voilà. Donc ça, c'est une version sociologique du stigmate.
Et une version sociologique et une version plus personnelle aussi de Gaylor qui a écrit un petit texte juste avant l'émission.
Ouais, voilà, c'est tout frais.
On t'écoute.
Donc à force de stigmatisation, je me suis enfermé dans un paradigme imposé qui s'est transformé en vérité par l'évidence. De citoyen du monde de par mon mode de vie, je suis passé à les gens comme moi et les autres. Difficile est la déconstruction de ce paradigme. Difficile est la destruction des barrières que j'ai moi-même érigées. Il est plus facile de s'enfermer dans des certitudes que se libérer d'elles. Sortir de ce cloisonnement mental implique de croire en soi comme au premier jour et aussi de croire en ces fameux autres, car derrière leurs préjugés, se cache la même envie de liberté. Quand on a compris cela, il n'y a plus qu'à. Les stigmatisations seront toujours là, mais la bave du chameau n'atteint pas le noir corbeau. Sortir de l'enfermement des autres commence par sortir du sien. Gaylor 2023.
Vous avez le droit d'applaudir, hein, même si...
sinon, c'est trop d'honneur.
Ok. Bravo. Il y a, ça y est, c'est à mon tour d'être ému. oui, je voulais en venir aussi à la. Du coup, il y a la stigmatisation, puis il y a aussi cette question de. Enfin, cette liberté, justement, par la création. Là, on a un exemple de création. Toi, t'as écrit de la poésie, de la poésie, oui. Qu'on entend en partie dans la capsule. Alors, il y a deux poésies. Il y en a une qu'on n'entend pas en entier.
Il y en a une qu'on n'entend pas en entier sur l'errance.
L'errance.
Ouais.
Mais qu'on peut écouter, par contre, dans l'émission précédente qu'on a fait, qui est animée par Gaylor et Berama, qu'on retrouve sur le site de radiosynfé.com pour voir la poésie dans l'entièreté.
En entier, Voilà.
Puis cette création, c'est une forme d'évasion aussi, quelque part. Non, c'est comme ça que tu présentais, toi. Et
oui.
Geller aussi, je crois.
Ben, c'est en fait, c'est quand c'est tellement évident que du coup, c'est déjà dans ta tête et que du coup, en fait, elle est déjà tellement dans ta tête que t'as plus qu'à sortir le crayon et puis elle, ça sort tout seul. C'est quand c'est évident, en fait. Enfin, pour moi. C'est ça.
Et toi, tu t'évades d'une autre manière, Geller, donc plutôt par le son et la musique.
Oui, mais alors, c'est justement ce qui est paradoxal, c'est que c'est s'évader, sortir de son enfermement par l'art, ça enferme aussi dans une autre. C'est-à-dire que la poésie, bah, c'est de la poésie. Tu vas faire de la musique, alors oui, mais quelle musique, quel machin, hein. Si tu fais de la techno, eh ben, t'es dans la case techno. T'es pas dans la case émotion musicale, t'es pas dans la case je raconte ma vie par des ondes, t'es dans la case techno. Donc on essaye de sortir d'un truc, mais on s'enferme dans un autre. Et là, c'est bien compliqué en fait.
Ouais, mais alors moi je fais de la poésie, mais il y en a certaines que j'ai mises en chanson.
Oui, mais voilà, mais à nous, après, peut-être, dans ce cas-là, si le but c'est ça, de rendre de part soit la poésie, soit un style musical ou une, la sculpture ou n'importe quoi, de la rendre accessible à tous. Voilà. Et là, on ressort encore de cette deuxième case, peut-être pour s'enfermer dans la grande case de l'art. Voilà, bref.
Ça, je pense, c'est essayer de faire des fusions et pour briser les cases.
Je crois qu'on n'entendait pas beaucoup.
Pour briser les cases et du coup essayer de faire des fusions entre différents styles, différents médiums peut-être. Mais ça, je pense que tu le vois, même dans la techno, il y a souvent quand même, en plus, une œuvre d'art souvent derrière la scène, quand même. T'as un jeu de lumière avec des lumières noires. Il y a pas qu'une musique. Enfin, sur une rêve, t'as aussi une ambiance, t'as aussi.
Oui, mais c'est. Enfin. Parce que j'ai expliqué juste le paradoxal de sortir d'une case pour en rentrer dans une autre, en fait. Même si tu fais des fusions, ben, mettons que tu crées un nouveau style, et ben, ce style, ça devient une nouvelle case. Et
ainsi de suite.
C'est le paradoxal de comment on perçoit de notre paradigme, comment on a été éduqué à percevoir les choses. Et même quand on a conscience d'en sortir, faudrait aller faire une retraite de 5 ans dans des maisons troglodytes et peut-être qu'on aura une chance.
Oui, parce qu'on aime bien catégoriser les choses, je pense, c'est l'être humain qui est fait de cette façon, peut-être.
Après, là, pardon. Pour moi, Geller, là, tu parlais de l'enfermement et c'est si tu prends en compte le regard de l'autre, mais du coup, toi, quand tu t'écoutes tout seul à faire de la musique, peut-être c'est dans ce sens-là où tu as ce côté où ça apporte une vraie libération et là où tu es totalement libre de faire ce que tu veux en techno, par exemple.
Oui, ça va de soi, ça va avec, oui. Oui, mais c'était la réflexion que je me faisais en même temps, là, pendant qu'on en parlait. Donc, effectivement, en voulant sortir d'un truc, on rentre dans un. Mais oui, sinon, on n'essaierait pas de se libérer d'une manière ou d'une autre.
À propos de musique, tu nous as écrit un petit freestyle aussi avant qu'on passe justement à ta capsule. Je ne sais pas si tu as envie de le dire là, ça peut être après aussi, avant qu'on écoute ton récit, ta capsule.
Ouais, j'étais pas prêt là.
C'était pas propre.
Ça a été écrit en 30 secondes il y a une heure, hein, donc pas de jugement s'il vous plaît.
Et puis derrière, on lance ta capsule directement.
Je me rappelle plus de l'air, mais bon, faire des freestyles ici et là, passer dans les radios, radio d'ici, radio là. Radio Saint-Fé, si tu veux pousser les petits fadeurs pour rendre moins fade, les longues heures qui rendent malade, je sors de la case, même si j'écris dedans, je rentre dans une phase, celle du décloisonnement.
Merci Geller.
Non, ça s'applaudit pas ça.
Allez, on écoute tout de suite ton récit, puis on se retrouve juste après.
Ça a commencé par un trop-plein du système, un trop-plein d'esclavagisme moderne et tout ce que ça implique d'être toujours dépendant de l'argent et du reste. Et la seule solution que je voyais à l'époque, c'était de tout claquer et de partir en sac à dos avec ma chienne. Et dormir dehors, c'est pas tous les jours easy, ça dépend où tu dors. Si t'es perdu au milieu du Cantal, à part une agression de vache, t'auras pas grand-chose. Si tu dors dans les rues de Montpellier, c'est autre chose. Heureusement qu'il y a le chien pour te réveiller. après un an de sac à dos. Il dit « Ok, la rue, c'est génial, j'aime bien, mais avec un toit sur la tête, c'est encore mieux. » Donc, récupérer une petite vanette qui était même pas aménagée. J'avais posé deux meubles dedans, un matelas par terre. Et elle avait un toit ouvrant, donc ça me permettait de regarder les étoiles le soir. Ça, c'était cool. Mais un toit ouvrant, c'est petit, donc... Eh ben, tu ouvres la porte arrière et tu sors la tête et là, t'as tout le ciel. Ça, c'est bon, ça. Sans dormir par terre, donc t'es pas humide. En musique, j'essayais de retranscrire un peu ce que je voyais, la beauté des étoiles. Mais la triste réalité, ça rendait mes créations plutôt agressives et sombres, en fait. Comme le monde. La musique et les drogues, voilà, il suffit de fermer les yeux et hop, avec le camion, on part dans les étoiles, quoi. Ça permettait d'aller plus loin, d'exprimer plus de choses, en tout cas. Moi, c'était mon exutoire, hein, à la base. Il y a un exutoire qui s'est transformé en exutoire commun, plus en plus commun. Il m'appelait le shampoing des mélanges. C'est dénouer les nœuds du cerveau, quoi. Le problème, c'est que quand on se retourne, on voit la Terre. Et la Terre, elle fume d'un gaz tout pourri. Les guerres, le mécontentement général. Enfin, je la voyais sombre, je la voyais pas bleue du tout, je la voyais noire, cette terre, quoi. Donc j'ai essayé de m'en éloigner le plus possible. Et le problème, c'est que une perche, ça dure pas. Donc faut redescendre après. Et quand on redescend, ben, on redescend là où on a essayé de fuir, en fait. Donc on recommence. À chaque fois, on en prend un peu plus pour aller un peu plus loin. Jusqu'à un moment, atteindre les limites de ça, du nez, déjà. Et les limites du corps et de l'esprit, j'appelle ça. Il n'y avait plus qu'une solution qui se proposait à moi pour aller plus loin, pour retrouver ces vrais échappatoires, parce que c'était de vrais échappatoires. Et là, il fallait passer à la façon la plus agressive, donc l'injection. Et ça, c'était non. C'était hors de question. C'était une promesse que je m'étais faite depuis très jeune, parce que j'ai eu la chance et la malchance de traîner la rue très jeune et donc de voir des gens partir très tôt et de comprendre un peu plus tard pourquoi ils partaient et ils shootaient tous, en fait. Et moi, je voulais surtout pas ça. C'était une promesse que je m'étais fait. Dédicace à Gazon dans le 5e arrondissement de Lyon, dans les années 90. Du coup, ben, j'arrête tout parce que de toute façon, ce n'est que frustration après. De prendre des drogues qui font de moins en moins d'effet. Donc t'es dans une frustration permanente. Et donc le problème, c'est que tout arrêté, ben, impossible de fuir pour être heureux. Donc s'installe la dépression, s'installe la traversée du désert. Heureusement qu'il y avait le chien, quoi. Sinon il y avait rien d'autre qui tenait. Malgré ça, j'ai quand même essayé de me foutre en l'air, parce que quand tu vois plus d'issue, pour beaucoup, c'est la seule issue qui reste, quoi. Et puis, bah, commencer par faire un pas, puis deux, puis trois. Et puis, à un moment, tu regardes par la fenêtre. Au lieu de t'enfermer dans ton camion, tu laisses entrer le soleil, tu vois un peu ce qui se passe dehors. Il y a de la vie, il y a des piou-piou, il y a tout ça, en fait, qui est en train de tourner sans toi, en fait. T'en profites pas, là. On réessaye un peu de musique, un peu de sculpture, un peu de ça, puis bah, en fait, c'est pas si mal, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de se percher la gueule pour créer, quoi. Surtout que le chemin, je le connais déjà maintenant. Et là, de pouvoir recréer à nouveau, bah, c'est bon, en fait, ça y est, je retrouve ma place, donc bah, j'ai plus qu'à y aller.
Si jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse, sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir.
Alors, Vous êtes toujours sur Ici l'ombre, vous nous écoutez sur la fréquence de Radio La 106.6 pour cette émission du coup consacrée aux zozos de passage, un projet qu'on a mené depuis le mois de février avec Radio Saint-Ferréol et Eva l'accueil. On vient d'écouter le récit de Geller qui est ici présent. C'est toujours difficile un peu d'en parler directement après, je trouve. Mais voilà, ben, du coup on entend cette évasion par la musique, cette évasion aussi par la drogue, du coup qui est une forme d'évasion et une évasion peut-être qui enferme finalement derrière.
On y revient.
On y revient. Alors, je sais qu'on en avait discuté, on avait eu un long débat là-dessus lors de la précédente émission.
Lors de la précédente émission, ouais.
Mais je trouve ça important de. Enfin, je trouve ça intéressant en tout cas de parler de cette liberté en fait qu'on comprend et puis qui nous enferme derrière.
Bien sûr, oui. Oui, parce que c'est. Moi, je vois ça un peu comme un pansement de l'âme, quelque chose qui permet de pas se jeter par la fenêtre, justement, souvent dans des moments difficiles. Mais c'est vrai qu'après, la drogue, ça amène d'autres problèmes, et du coup, ça enferme, on s'enferme dedans, quoi. Et c'est compliqué. C'est compliqué de voir la vie sans.
Ouais. Toi, tu partages cet avis, je crois, Geller. Enfin, on l'entend, de toute façon.
Non, on y revient, on échappe encore un truc pour en s'enfermer dans un autre. Non, mais c'est comme tout, on parle de drogue, moi je pense à l'alcool aussi. Hein. Au début, c'est festif, ça te permet de t'ouvrir aux autres, ça permet de, voilà, de libérer certains de tes maux. Et puis ça devient ton mal après. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas atteint une limite, on ne sait pas qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et cette limite, quand on l'a franchie, on sait déjà qu'on a fait des pas en trop, quoi. Et c'est le retour qui est souvent super difficile, parce que ça a pris une telle place dans ta vie, comme on disait l'autre fois,
c'est ça,
la
voilà.
Dernière chose que tu penses avant de t'endormir et la première chose à laquelle que tu penses en te réveillant le matin.
Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la drogue, ça peut être le smartphone, ça peut être n'importe quoi.
On parle d'addiction.
À partir du moment où ça prend toute la place dans ta vie, c'est que là, ça devient quelque chose de problématique. On ne peut pas dire une drogue dure, une drogue douce, mais c'est un usage dur, un usage doux du smartphone, de la drogue, de l'alcool.
On parle d'addiction.
D'addiction, voilà.
Sauf que, à part une petite lobotome, si tu restes H24 sur ton écran. C'est-à-dire que tu risques pas une OD, tu vois, tu risques pas une OD d'écran, quoi. Donc il y a des trucs qui font un peu plus mal que d'autres quand même.
C'est sûr.
C'est courageux, en tout cas, d'avoir voulu en parler dans ce récit. Il y en a un autre qui en a parlé, du coup, parmi les participants, c'est Berama, qui en parle aussi très bien. Berama, et puis il y a Chaussette aussi. Donc deux autres participants qui ne sont pas là, mais qui ont participé au projet. Qu'on salue fortement,
oui.
Et qui en pense. On écoute leur témoignage, on parle derrière. Ah oui, je précise que Berama, du coup, il n'y aura pas d'image sur le récit de Berama parce qu'on a choisi en fait de proposer aussi une expérience d'écoute radiophonique. Nous, on aime bien en faisant de la radio le fait de faire nos propres images juste en écoutant. Donc, il n'y a pas d'image pour Berama. On l'écoute tout de suite.
Je suis tombé dans la drogue dure. La cocaïne basée, ce qu'on appelle basée, c'est prendre la cocaïne avec ou du bicarbonate ou de l'ammoniac, ça dépend ce qu'on a, et d'en faire un caillou et de le fumer, comme du crack. En fait, c'est du crack, mais qu'on fait soi-même, pas qu'on achète le caillou déjà tout fait. Un gramme de cocaïne basée, ça dure une heure, deux heures. Trouver 80 euros toutes les 3 heures, mon quotidien, c'était comment trouver la drogue. Et là, on est obligé de faire des choses qui sont vilaines.
Ah, dis-moi, comment tu vas? Il te fallait quelque chose?
La drogue, on va dire que c'est une biche ou un daim ou n'importe quoi, et les camés, c'est les fauves. Au plus malin, au plus cruel, au plus vicieux, au plus tordu. T'es gentil une fois ou deux, t'es mort. T'es mort. Quand tu vends ça, tu dois être open 24 heures sur 24. Il y a des gens qui n'étaient pas dedans. Et je les ai mis dedans. Exprès, je les ai mis dedans. Je savais qu'ils allaient dépendre de ça et qu'ils allaient me rappeler. Moi, j'ai fait ça pas pour les détruire ou machin. J'ai fait ça pour en avoir moi.
Oh, salut mon pote, ça va, ouais. Rapport, tu fais une affaire de malade.
Il y en a qui ont perdu leur boulot, il y en a qui ont perdu leur famille, et il y en a qui se sont mangés à cause de moi.
Allez, ciao.
À cause de moi. J'ai jamais décidé de faire du mal. J'ai fait ça pour m'en sortir. Et malheureusement, voilà. Il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. J'ai fait ça pendant 3 ans. C'était l'enfer, en fait. C'était l'enfer et j'arrivais pas à me sortir de cet enfer-là. Ma mère est décédée. Et j'arrêtais pas de la voir dans mon esprit, j'arrêtais pas de l'entendre. Comme si elle était là, vraiment là, vraiment là. Et j'ai parlé avec elle et je lui ai dit, je sais que tu m'en veux beaucoup, il y a de quoi. Mais je suis pris là-dedans et j'arrive pas à m'en sortir. Et si vraiment j'ai une main tendue, que tu m'envoies quelqu'un qui m'aide, j'ai dit, je te promets que je prendrai cette main et que du jour au lendemain, j'arrêterai tout. Quelques jours après ça, il y a une de mes sœurs qui s'est pointée devant ma porte et qui m'a dit « Maman est venue me voir en rêve et elle m'a dit « Va voir ton frère. » Ça va pas, quoi. Et ça m'a donné un courage fou, fou. Parce que du jour au lendemain, j'ai quitté Montélimar, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis parti en espérant qu'en retrouvant ma famille, j'allais être entouré parce que j'avais beaucoup d'espoir. Et quand je suis arrivé, on m'a mis une étiquette de toxico, toxicomane. Ils ne voulaient pas se prendre la tête à savoir si vraiment j'avais changé, comment j'avais changé. Ou... Non, pour eux, me cataloguer comme toxicomane et me fermer la porte... C'était plus facile. Tout le monde disait à l'autre de se méfier de moi. Et je me suis dit intérieurement, puisqu'ils me voyaient comme un drogué, un toxicomane, un voleur, un menteur, ben je leur montrerai que tout ça c'est faux, quoi. Putain, je suis leur frère, putain. Ça fait 5 ans, ça fait mal encore. Ça fait mal parce que c'est un sentiment d'injustice. Ouais, j'ai pas mérité ça. Non, j'ai pas mérité ça. J'ai été aidé, j'ai fait des cures, je suis allé à l'hôpital. Je suis tombé sur une directrice de cure. J'étais content, j'étais heureux, mais je lui disais, madame, chaque jour, c'est une victoire. Chaque jour, je me réveille, je me suis dit, regarde, t'en as pas pris de la drogue. Je sais pas d'où elle est venue, cette force. Je sais pas. Pendant un certain temps, je sais pas si j'avais un ange là qui était sur mes épaules et qui... S'il n'y avait pas eu ça, je serais dedans, quoi. J'ai eu peur. Parce que c'est un truc... Je sais pas, c'est pas palpable, tu connais pas. C'est... Mais je suis persuadé que son esprit était là. Et qu'elle me voyait, qu'elle pleurait. Elle disait, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? Je pense que, sincèrement, je pense qu'il y a... Il y a des esprits, ou je sais pas comment les gens ils appellent ça, une force, ou je sais pas quoi, qui veillent sur nous. Moi, je le sens, je le sens. Je le sens.
Voilà, c'était Berama et on enchaîne tout de suite par un deuxième témoignage de Chaussette.
C'est l'histoire d'un petit gars qui avait déjà la bougeotte très très tôt et qui donc arrivait à 15-16 ans... était déjà plus dans la structure. Donc, sac à dos. Et dès que je voyais que je sombrais dans le... que ce soit les drogues ou l'alcool, etc., hop, changement d'air, changement de pays, changement de tout. Et quand Sarkozy est passé, là, j'ai vraiment pété un câble, j'ai pris mon camion et je suis parti en Espagne. J'ai voyagé un petit peu partout en région Catalogne. Je me suis un petit peu enfogné sur Barcelone. C'est là que je suis tombé sur une jolie pépette. Et bon, tous les deux, on avait la tête ravagée parce qu'elle avait ses problèmes avec son homme, on a problème de rue, etc. Donc on n'avait pas une belle tronche. Et on s'est donné rendez-vous pour le lendemain.
Hola, guapetona. Tal vez tendrás un cigarrillo.
Sí, sí, atento de entonces.
Une jolie fille, avec des jolis yeux, des jolis dreadlocks, qui décide de faire la route avec moi.
Vale.
C'est la vie au jour le jour. Hein. On ne sait jamais ce qui se passera le lendemain. Et donc, c'était très beau, de très belles choses à vivre. Se réveiller tous les jours, les pieds dans l'eau, ou les pieds dans un endroit magnifique, on ne sait même pas où, comment. Et bref, on est arrivé. Tous les jours, on se réveille le matin, on ne sait pas ce qui nous attend. Au lever du jour, il y en a toujours un qui hallucine, quoi, parce qu'on est à côté d'une éolienne, on n'a même pas vu qu'il y avait une éolienne à côté, quoi. Ou se garer à un endroit tellement dangereux qu'il y a une roue avant qui est presque dans le vide. En fait, on s'est arrêté à deux doigts de se jeter d'une falaise. Ou le frein à main mal serré, on entend des voitures qui passent. En vérité, on était sur l'auto, sur l'air, une aire d'autoroute. Le frein à main avait lâché, les voitures qui passaient de tous les côtés qui klaxonnaient. Des histoires impossibles, et encore je condense.
Dans notre milieu, le milieu des free parties, du voyage, etc., on a évidemment de la drogue qui tourne. Donc, problème d'addiction, bon, qui sont plus ou moins graves, mais bon, voilà, on vivote dans ce monde-là. C'est une vie magnifique, mais très destructive. Dans le sens où il faut faire très attention à soi. Si on a un animal, faire de soi son animal. Sa compagne, on n'en parle pas parce que c'est très difficile. Hein. La vie de rue, de vagabondage, rien de facile. Voyage. Le problème, c'est que cette compagne a eu un accident très bête et méchant qui lui a valu ses jambes. Elle a fini paraplégique. Mais une fille avec une force incroyable qui a réussi à s'en remettre malgré qu'elle soit restée en fauteuil roulant. Et tout ça veut dire qu'en fait, même dans le mal, on arrive à s'en remettre car maintenant, aujourd'hui, elle vit une vie où on n'est plus ensemble, on est resté ensemble 8 ans, mais ça a été très dur. Ensuite, vu qu'elle est italienne, je l'ai suivie d'Espagne en Italie, tout ça a été très très beau et très 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 dur en même temps. Son sac de temps en temps avec un peu de cervelle et faire très attention aux drogues, quelles qu'elles soient, car c'est ce qui détruit à peu près n'importe qui, même les meilleurs. Donc un gros bisou à tous ceux qui vont écouter ce message et sachez que moi en ce moment je suis sur pattes et je continue à sourire et j'aime encore le monde. Voilà, allez, bisous.
Cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores.
Merci à Berama, Chaussette, on embrasse aussi, et qui en pensent qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, alors qu'ils ne pourront pas parler de leur histoire. Par contre, toi, Lynn, tu as été. J'ai travaillé en binôme, du coup,
voilà, Chaussette. J'ai travaillé en binôme avec Chaussette. Alors, c'est vrai que, bon, c'est une histoire très dure qu'il a vécue, mais par certains aspects, c'est vrai qu'on a eu des points communs avec nos histoires d'errance, de vie en camion, et de vie au jour le jour. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui résonnent, et même sur les messages de la fin, je le partage complètement. À 100%, et ça, ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau le témoignage qu'il nous a livré, Chaussette.
D'ailleurs, on t'entend un petit peu dans la, parce que du coup, là, on n'a pas parlé de la construction des capsules, mais on t'entend un petit peu dans sa capsule, oui, ça fait bien régulier.
Baragouine et l'espagnol, parce qu'on crée les ambiances sonores derrière.
Ouais, les sons de situation, ouais, du coup, qui ont été faits. Du coup, tous les sons qu'on entend ont été faits à l'accueil, hein, pendant les ateliers sons. Donc, il y a des petites scénettes de théâtre. On s'est bien marré parfois. Ça a beau être des histoires dures, finalement. On a passé des bons temps et on a bien rigolé sur ces moments-là.
Oui, carrément.
Aucun preneur de son n'a été maltraité pendant le tournage.
Non, c'est vrai, c'était hyper fort, en tout cas, de partager ça avec vous, de partager ces ateliers, puis de vous écouter. Nous, c'est vrai qu'on ressortait de là avec Héloïse, on se prenait de bonnes claques, quand même, il faut le dire, à la fin de chaque atelier. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper fort qui s'est fait dans le groupe, quelque chose de collectif, un travail collectif qui s'est mis en place. On en parlait un petit peu au début de l'émission, hein, ces récits qui se sont livrés petit à petit, bon, par des petites méthodes, d'abord par binôme, puis après en petit groupe, puis après on a joué certaines scénettes pour essayer de les mettre en scène, on a créé les ambiances. Et finalement, en passant par le jeu, par la radio et tout, ça, ouais. Il y a quelque chose d'hyper fort qui s'est passé dans le groupe, quoi.
Oui,
moi, je retiens vraiment une expérience, je crois que c'est une de mes meilleures expériences radio, vraiment.
Mais pas moi, c'était ma première, mais vraiment, j'en retiens que du bon, voilà. Ouais. Puis comme on parlait ben du silence, c'est vrai que c'est pas évident de se livrer, c'est pas évident de briser le silence, et souvent parce que on n'a pas forcément le courage de se mettre à nu, le courage de dire les choses, et aussi souvent parce que les gens en fait sont pas prêts à l'entendre, et du coup ça nous enferme encore plus en fait dans des non-dits, parce que ben, du coup on sent que les oreilles elles ont pas envie d'entendre ça, donc du coup on préfère garder le silence.
Ça dit que là, ce qu'il y a de bien à la radio, c'est qu'on les voit pas, les oreilles qui nous écoutent.
C'est vrai, c'est un avantage. Ouais.
Ces récits, c'est des choses que vous, parce que vous côtoyez régulièrement, hein, à l'accueil, ça c'est des récits que, enfin, vous avez appris des choses quand même les uns les unes sur les autres à travers ces ateliers, ou c'est des histoires que vous connaissiez déjà?
Tous ceux qui sont intervenus, je suis resté sur les fesses. C'est des gens que certains croise depuis plus de 2 ans et qui on a bu moult cafés, avoir eu moult discussions, même des discussions assez profondes de la vie, et je savais pas ça d'eux. Il y a eu un effet, je sais pas, c'est peut-être toi et Héloïse qui nous avaient ensorcelés, mais en tout cas, il y a eu un effet où on s'est vraiment livré de un exutoire, quoi. Et là je constate, je m'étais dit ouais, allez, ça va, c'est un peu dur les premières fois, et puis après ça va s'adoucir. Tu parles, j'ai l'impression que ça m'attaque de plus en plus d'écouter tous ces trucs, c'est à chaque fois, parce que du coup je refais attention peut-être à des phrases que j'avais moins percuté le coup d'avant, et ça me laisse bouche bée.
C'est vrai, c'est des témoignages qui à chaque fois ils nous laissent limite les larmes aux yeux, quoi, alors que c'est des gens, on les connaît super bien. Enfin, là encore, j'étais encore avec Chaussette en texto il y a juste 2 minutes avant l'émission, c'est des choses qu'on connaissait pas forcément, et du coup on a après les découvrir autrement, quoi.
Moi, je trouve qu'il y avait, une consigne un petit peu qui finalement, que les personnes ont pris, de raconter un événement marquant. En fait, c'est parti plutôt de ça, finalement, parce qu'il y avait la possibilité de parler d'un souvenir quelconque ou d'un événement marquant. Et pour la plupart, vous avez parlé de votre vécu qui, sur le parcours en général, était marquant. Et du coup, c'est vrai que je trouve que le projet, il a vraiment permis de s'engager et de mettre en mouvement des personnes qui du coup ont de grosses difficultés à s'engager ou à se mobiliser parfois, Et en fait, c'est, on voit l'importance que, qu'ont les projets en fait, qu'on mène ensemble et la création, enfin, le pouvoir de ça qui fédère et qui en fait, on est dépendants un petit peu les uns des autres parce que pour que le projet aboutisse, il faut qu'on soit tous là et qu'on s'accorde. Et du coup, c'est ça qui est beau aussi parce que du coup, il faut qu'on soit tous là pour que ça fonctionne. Alors après, je fais voilà, une petite dédicace à ceux qui ont participé mais qui ne sont pas restés jusqu'à la fin parce qu'ils n'étaient pas dans la même temporalité ou qu'ils étaient, voilà, ils n'étaient pas forcément prêts. Ils n'ont pas réussi à s'accorder, mais je pense que ce n'est pas perdu. Et en fait, voilà, faut se dire qu'en fait, ce sera un autre moment et on réitérera l'expérience, quoi.
Oui, puis il y a certaines personnes qui avaient des obligations aussi, qui n'ont pas pu venir.
Totalement, ouais. La vie après, du travail, ça, enfin voilà.
Mais là, malgré tous ces aléas de la vie, ces horaires et tout, je trouve que ça dure quand même depuis février, quoi. C'est un travail qui a duré 6 mois. Ouais. C'était un jeudi sur deux à Val-Accueil. Le groupe est resté soudé. Alors forcément, il y avait des allées et venues en fonction des contraintes de chacun, chacune. Mais il y a quand même eu quelque chose de... sur 6 mois, quoi, où,
ouais, c'est
où
quand là, le groupe était comme très soudé, quoi. Sur du long terme, ouais, vraiment.
Ouais. Vous parliez d'exutoire, du coup, c'est quelque chose qui... Pourquoi exutoire? C'est quelque chose qui... Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, de livrer ça? Est-ce que c'est se décharger aussi, quelque part, à travers la radio?
Après, la honte vient exutoire. Non, c'est face à la honte, oui, la honte de se mettre à nu, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, on se rend compte du bien que ça peut faire. Voilà. Mais sur le coup, je suis pas sûr qu'on avait vraiment conscience qu'on allait faire ça comme ça. Et pour ça, en tout cas, enfin non, pas du tout même, j'ai envie de dire. On était plus dans un délire d'une charrue embarquée en pleine descente à un moment. et là, enfin, personnellement, je me rends compte petit à petit de ce que ça fait. Il y en a peut-être qui ont un peu plus de mal à assumer parce qu'ils se sont livrés vraiment très profondément. Il y a des choses aussi peut-être... Enfin, moi, il y a des choses que j'avais pas forcément envie que certains sachent. J'avais pas pris la mesure de tout ça parce que je suis et accueilli à Val-Accueil et je travaille aussi avec eux. Donc, c'est vraiment deux...
voilà. Je pense déjà, tant qu'on n'avait pas vu les capsules, en fait, on n'avait pas eu conscience de l'ampleur de ce que c'était, en fait. Déjà, en fait, on était là, la tête dans le guidon. Et du coup, c'est vrai qu'on... Ouais, quand la première fois on les a diffusés et que du coup il y a d'autres gens qui les ont vus et qu'on les a pas juste vus entre nous, c'était pas
des petites créations pour nous à garder chez nous, quoi.
C'est voilà. Ça.
Donc on aurait pu être fiers dans notre petit microcosme et tout. Là, il y a vraiment quelque chose où faut passer certaines peurs, faut passer le regard. Accepter aussi soi-même nos dérives, puisque là on parle aussi de nos dérives, quoi. Ouais, c'est tout à fait.
Moi j'ai le sentiment que ça. Vous allez me dire si c'est le cas, parce que moi j'ai pas pu faire de capsule, j'étais pas là sur un temps donné, voilà. Mais du coup j'ai le sentiment que ça a soulagé, en fait, parce que finalement c'est comme si vous assumiez, en fait, une partie de votre vie qui était tue, quelque part. Et du coup, de la libérer, de la partager, en fait, c'était une façon de l'assumer, quoi, et de la traiter. Et je trouve aussi que ça a permis de reprendre, enfin, vous allez aussi me dire si c'est le cas ou pas, mais que ça a permis de reprendre un peu du contrôle et du pouvoir sur la vie et sur le vécu que vous avez pu partager. Parce que du coup, en le ramenant sur la sphère publique et en le partageant, ça a permis de maîtriser un peu plus au niveau émotionnel ce qui a été vécu et d'en échanger.
Moi, j'ai pas tout à fait cette vision-là. J'ai plutôt les visions j'ai l'impression que mon expérience et l'expérience des autres personnes qui les ont partagées, que ça va servir à d'autres. En fait, moi, je parle d'agression sexuelle par rapport à une fille qui n'a pas pu porter plainte ni rien du tout. Mais du coup, qui le dit là, qui dit que maintenant, je ne serai plus jamais une victime parce que je me suis retrouvée dans la même situation et cette fois-ci, j'ai réagi. Et ouais, je ne me ferai pas avoir deux fois de la même façon. Et du coup, j'ai envie justement que d'autres meufs entendent ce soir que oui, vous faites pas avoir encore, gardez quelqu'un qui est avec vous, qui serait là pour vous protéger, ou gardez encore un petit peu de conscience. Et puis, j'ai l'impression que Chaussette, il demande aussi de garder foi en la vie, mais de faire attention à toutes les addictions, qu'on essaye de faire passer des messages aux autres aussi, que ben nous, notre histoire de vie, ben on a eu des trucs qui étaient pas drôles, mais que du coup on souhaite que les gens ils puissent vivre les choses qui étaient sympas qu'on a vécues, mais éviter de tomber dans les dérives que nous on a vécues.
C'était très présent ça, je me rappelle chez vous, d'essayer de justement ce côté message en fait, parler de vos petites histoires à vous, mais pour les partager à d'autres, et pour pas que ça se reproduise, ce côté que j'aime bien appeler petite histoire, grande histoire, où c'est ces petites histoires finalement intimes, mais qui parlent de patriarcat, qui parlent de violence des institutions, dans le cas d'Ibrahim, qui parlent de violence de la rue, et en fait, c'est des choses qui sont plus collectives, qui sont plus globales, et à partir de vos récits intimes, je trouve que vous parlez bien du monde, quoi, finalement, de la société, comme tu le disais un petit peu au début, Julie.
Enfin, un point de vue de marginalisé, quand même.
D'un point de vue de marginalisé.
C'est un petit peu dans les extrêmes, quoi.
Mais pour rejoindre un peu ce que disait Julie, là, s'approprier la chose, se rendre compte qu'on est... Oui, de toute façon, chaque création te conforte dans l'idée que t'es capable de machin. Moi, ça m'a renoué un petit peu avec l'émission qu'on avait fait derrière. Ça m'a renoué avec ça que j'avais pratiqué en amateur pour rigoler et que j'adore. Ce partage en direct, là, c'est tellement bon... Il y a un truc, quoi. Donc, du coup, oui, ça sert aussi à se dire, tiens, et si on allait encore un peu plus loin, si on refaisait autre chose, si on refaisait encore des capsules, voilà.
Voir des émissions.
On est directement allé demander au chef de service de l'accueil. On lui a dit, alors, t'as aimé? Oui, t'as aimé? Bon, on refait quand?
Oui, et puis même avec Chaussette, après, on était retourné voir Radio Saint-Ferréol, et puis on pourrait pas refaire un projet et tout.
C'est dans les tuyaux, quoi.
C'est dans les tuyaux. On espère que ça va se refaire, ouais. J'espère. Toi, en tant qu'éducatrice, alors tu disais, t'as pas fait de capsule, mais il y a Amandine, par contre, parce que du coup, on peut en profiter pour les citer, parce qu'on les a pas cités. Il y a eu Isabelle, Thomas, Amandine et toi, du coup, sur le projet,
Polly qui a interviewé Amandine. Voilà. Du coup, un accueilli qui a interviewé une accueillante. Qui a interviewé une accueillante, voilà. Ouais.
Et du coup, Amandine qui a fait sa capsule fait de l'interview de Polly, qu'on n'aura pas le temps d'écouter ici, mais qu'on peut retrouver, je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces capsules sur le site radiosaintfé.com. Il y a Martial aussi. Donc, ouais, il y a Martial, Polly, Amandine.
Thomas, tu l'as dit. Thomas Roland qui était à l'initiative du projet. Enfin, c'est parti de son envie à la base, à l'origine.
Ouais. Oui. Et Amandine, du coup, vous pouvez retrouver la capsule d'Amandine sur le site radiosaintfé.com. Peut-être avant de se quitter, je propose quand même qu'on termine par un petit making-of de notre première rencontre, notre toute première rencontre à Val-Accueil. Quand on est arrivé, on a parlé de nos souvenirs radio.
Moi, je devais pas être là parce que, comme moi, je suis pas du matin, c'est ce que je disais, je suis arrivé toujours en retard.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé des horaires des ateliers.
Mais les horaires des ateliers qui commençaient tôt, tôt pour moi. Chacun son temporalité.
C'était le moment où Julie allait chanter, moi. Non, j'ai raté un truc. Non. Voilà.
Alors, Julie, elle chante déjà dans la première émission.
Voilà, c'est suffisant.
Bon, c'était. La perche a été tendue, mais.
Ouais.
On finit par ça, puis on se retrouve juste après, de toute façon, pour conclure avec un dernier mot. Donc c'est notre toute première, notre premier passage à Val-Accueil.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Saint-Ferréol. Nous sommes le jeudi 16 février.
Alors bonjour Martial, je voulais te demander si tu te rappelles de ton premier souvenir de la radio.
J'ai beaucoup regardé Radio Monte Carlo, RMC. Et après je suis passé à Fun Radio, après avec Arthur... L'animateur le plus grand de la radio.
En route pour l'aventure avec Arthur. Vous entendez ça? C'est un micro. Il y a 10 ans, fleurissaient partout en France des radios libres. De Carbone 14 à Énergie, en passant par Fun Radio, animateurs, programmateurs et directeurs de radio, ceux qui ont fait et font la FM s'installent sur le plateau de mardi soir. La radio telle que vous l'avez entendue et jamais vue, des archives inédites, bref, pas de censure. Dans un instant, vous saurez tout sur la FM. En attendant, couvrez-vous bien, n'ouvrez à personne et prenez bien soin du rock'n'roll.
Et puis, question de musique, on était bien servi quand même, donc... Moi, à l'époque, avant les années 90, je pense, c'était fin des années 80, j'écoutais beaucoup tout ce qui était disco, tout ça, et on avait ce qu'il fallait à la radio.
Mon souvenir de radio, c'est... C'est à l'époque, dans les débuts 90, l'émission Doc et Difool sur Fun Radio.
Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole.
Oui, bonjour Doc, bonjour Difool.
3 mois plus tard, Love in Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France.
Et c'était une radio libre dédiée aux ados et pas que. Ça commençait vers 10h et ça finissait vers minuit, 1h.
Émission libre.
Allô ?
Bonjour.
Alors,
est-ce qu'on pourrait parler à Joanne?
Donc les parents, même sans connaître, ils n'étaient pas trop pour qu'on écoute la radio à cette heure-ci, parce qu'il y avait école le lendemain, mais s'ils avaient su ce qu'ils se disaient, je pense qu'ils auraient carrément cramé le poste.
Il affirme que non. Et une alerte sincère en plus.
Ah ben oui, mais il faut pas
que je fie
à son air.
D'accord.
Oui, mais donc je me rappelle de souvenirs où je mettais le son à 0,5 et je collais ma tête à l'enceinte pour pas réveiller le père qui était juste à côté, et j'écoutais ça jusqu'à point d'heure. Et il nous faisait découvrir des groupes très particuliers aussi, Berrurier Noir, Lofofora, tout ça, j'ai connu grâce à Fun Radio, qui le croirait aujourd'hui. Voilà. Salut à toi. Il passait salut à toi à l'époque. Donc c'était Martial, à vous les studios.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple de mer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple
de mer. Premier souvenir de radio, c'est ma mère qui travaillait à Radio M à Montélimar dans les années 80-90. Du coup, je traînais un peu dans les studios avec ma mère qui faisait quelques émissions.
L'invité du jour sur Radio M.
Alors, on va passer d'un registre très très rock à l'instant, bien un registre beaucoup plus rap, hip-hop. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans nos studios, en direct ce soir, NRQ. Salut.
Salut.
Bienvenue ici à Radio M, ça nous fait plaisir de t'accueillir.
À l'époque, la radio, c'était pas comme maintenant. Et du coup, moi, j'ai commencé à aimer la radio, j'avais déjà la vingtaine facile. Mais avec des radios locales à chaque fois. Que ce soit en France ou à l'étranger et tout machin, il y a toujours des petites radios. Parce que c'est là qu'on justement on se retrouve, qu'on arrive à partager des goûts musicaux qui sont justement un peu différents que ce qu'il y a du commercial avec des grosses radios qui mettent en boucle les mêmes machins de musique difficilement buvable.
Voilà, NTM à l'instant avec Plus Jamais Ça. De retour avec NRQ ici en direct dans nos studios ce vendredi soir. Là, on y va à la cool. Aujourd'hui, j'ai envie de dire. On va pas se prendre la tête, on est bien détendu, tout va bien. On parle donc de l'actualité d'NRQ. Ce que je vous propose, chers amis auditeurs, et à vous aussi ici dans les studios, eh bien, c'est d'écouter un extrait de l'album Clair Obscur, que j'ai dans les mains. D'ailleurs, j'appuie sur le bouton, on fait tout en live, hein. Même pas peur, on fait ça à l'ancienne. Version old school, on écoute NRQ.
Pour les autres, mais les respects restent sommaires. J'ai vu des milliers de bons frères, délivrés par le fond. Je resterai limité en série, délivré, les
soucis restent
trop.
J'ai posé 2-3 questions à Berama. Et il m'a expliqué un de ses passages de sa vie qui était un peu difficile suite à la disparition de sa maman. Je crois que c'est une leçon de vie. Je crois que ce matin, j'ai reçu une leçon de vie grâce à lui. Alors je te remercie.
Bah, merci Doumé. Merci beaucoup pour tout, pour ton témoignage.
Du coup, on a enregistré ou pas là? Ah ouais, c'est vrai? Non. Et là, ça marche ou pas?
Ouais.
Bon, bah super.
Je l'ai mis au milieu. On parle tous les deux.
Ok. Bon, bah voilà. Maintenant, c'est tout. Ouais.
Voilà, c'était les Zozos de passage, une série de podcasts animés réalisés à Val-Accueil par Radio Saint-Féréol. Une série que vous retrouvez, je le disais juste avant, entièrement sur le site radiosaintfé.com. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors d'abord, un dernier mot, peut-être Julie, Gaylor, Eline, pour conclure cette émission.
Bah moi, j'en profite pour remercier tout le monde, parce que je ne l'ai pas encore fait officiellement. Donc, merci aux personnes qui ont participé au projet. Merci aussi à Radio Saint-Férol, qui ont été aussi exceptionnels dans le lien avec nous. Et ce sera tout.
Et la face.
Bien sûr.
Merci bien sûr aussi la Fédération des acteurs sociaux qui ont financé le projet. Et le diaconat protestant qui a participé aussi. Un dernier mot, Gaylor ? Il n'y a pas d'obligation.
Non. Mais je suis obligé, sinon je vais me faire défoncer. C'est pour une collègue de boulot.
On a dit qu'on m'a
traité. Attention, mets ta main sur l'oreille, Marie. Happy ! Voilà, c'est fait. Bonne journée à tous.
Ouais, et puis ben merci aussi à Val-Accueil de nous avoir permis de vivre cette expérience qui était inédite pour moi. Et puis, ben... Dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront, quoi, voilà.
Merci à vous trois. On arrive donc à la fin de cette toute dernière émission en direct d'Ici l'Ombre, donc la radio de Concertina. Rencontre autour des enfermements qui clôture en ce moment même sa troisième édition. Je remercie les collègues de Radio d'ici, Radio La, Radio Saint-Féréol et Radio BLV qui se sont relayés tout le week-end pour prendre du son, monter et diffuser des programmes de qualité tout au long du week-end, contenu que vous pouvez retrouver sur le site de Concertina. Merci aussi aux personnes présentes à cette émission un peu particulière puisqu'il s'agissait d'une radio dessinée. Merci à Antonin, à la technique, et puis merci beaucoup à Gaylor, Julie, Lynn, mais aussi à Martial, Chaussette, Polly, Amandine, Ibrahim, pour ces témoignages puissants. Et puis du coup, bah, merci de me faire aimer mon métier. Merci à vous, enfin, auditrices et auditeurs, c'était Théo à l'animation, une émission que vous pouvez retrouver sur concertina-rencontre.fr. Bonne journée à toutes et à tous, et prenez soin de vous.
Ici l'Ombre, une radio passagère fabriquée avec amour par Radio d'ici, Radio là, Radio Saint-Féréol et Radio BLV.